Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce podcast, découvrez des parcours, des histoires d'entrepreneurs qui m'inspirent. Ce qui a fait qu'ils ont entrepris, les rencontres qui leur ont permis de franchir un cap dans leur business, leurs réussites mais aussi leurs échecs, vous saurez tout. Depuis 2017, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de tous les horizons. Dans ce 34e épisode, j'ai discuté avec Anne Kerveillant, la fondatrice de MyLuby. C'est Mélanie Dinan, que vous avez pu écouter lors du 32e épisode, qui m'a fortement conseillé de l'inviter dans ce podcast. Créée début 2020, MyLuby est une marque dédiée à créer des produits de bien-être intime de qualité, agréables à utiliser. Leur premier produit, un lubrifiant naturel vegan et made in France. Et pour le lancer, ils ont organisé une campagne de crowdfunding sur Ulule, résultat plus de 1700 précommandes en 30 jours. Alors on va en parler dans cet épisode, avec de nombreux autres sujets. Comment a-t-elle créé ce lubrifiant? Quels ont été les freins pour lancer MyLuby? À quel point est-ce difficile de se lancer dans la sextech en France? Comment s'est propagée la viralité de leur campagne de crowdfunding? Comment communiquer sur un produit comme celui-là, sachant que les publicités sur les réseaux sociaux sont interdites? Ou encore, quels sont les objectifs futurs pour MyLuby? J'ai beaucoup apprécié cet échange avec Anne, une entrepreneure authentique et déterminée, et j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu à enregistrer. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de me soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. En parlant de Serial Entrepreneur autour de vous, en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google ou encore YouTube. Et puis c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Salut Anne.
Salut François.
Alors Anne, je commence toujours mes podcasts sur le parcours de l'entrepreneur et souvent avec cette question, quel a été ton parcours avant d'entreprendre ?
Bien écoute, moi j'ai eu un parcours un petit peu classique, quand on n'est pas une trop mauvaise élève, donc c'est-à-dire qu'on... je suis allée en prépa après le lycée parce que j'étais pas trop mauvaise. Après, j'ai intégré une école post-prépa en commerce qui s'appelle l'UM Lyon à Lyon. Et en fait, j'ai un peu été sur des rails comme ça dans le sens où je me suis jamais posé la question. Moi, de base, je voulais être chef en cuisine. Et finalement, on m'a dit, mais ça t'ouvrira, enfin, ça t'aura beaucoup plus de portes ouvertes en faisant une prépa, en faisant une école de commerce. Et en école de commerce, moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais pas du tout ce que je faisais là. Moi, ce qui m'intéressait dans l'école de commerce, c'était discuter avec plein de gens et également faire du sport. Et du coup, on m'a dit, bon, t'es pas trop mauvaise en maths, va faire de la finance. En fait, finalement, je me suis retrouvée avec le même parcours que mes 4 frères et sœurs et que mon père. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais choisi ça. Et je me suis retrouvée en stage de finance chez Ernst & Young en transaction service. Donc, c'est un stage qui est quand même assez compliqué à avoir en césure et également... très exigeant et je me suis vraiment au bout de 2 semaines j'ai eu une énorme révélation en mode c'est pas du tout ce que j'ai choisi en fait, on m'a mis là, j'ai l'impression que les 4 dernières années d'études j'avais jamais fait de choix et j'avais jamais été vraie envers ce que je suis et ce que je cherche à apprendre. Et du coup je me suis dit c'est pas possible, ça va pas me plaire, les hiérarchies elle est très pesante, c'était très compliqué, les horaires, la façon de travailler ça me convenait pas du tout et je me disais que quand j'étais petite j'adorais créer des choses, j'étais toujours celle tu vois qui créait des jeux toujours un peu plus fou que les autres etc. Et donc en fait je me suis dit un peu du jour au lendemain, bon, c'est pas possible, je vais devoir créer quelque chose en parallèle de ce travail parce que je vais pas apprécier toute ma vie être en finance ou toute ma vie être dans un bureau, etc. J'ai eu la chance d'avoir un frère qui était entrepreneur, multi-entrepreneur et qui avait créé des jeux à l'époque assez connus, qui commençaient à être très connus. C'était un marché qui démarrait totalement. Qui étaient les jeux d'ambiance, ça s'appelle les party games un peu aux États-Unis, ça commençait à exploser aux États-Unis avec Cards Against Humanity et tous ces jeux-là. Et en fait, lui, il en avait adapté un en France qui s'appelle Limit Limit. Et moi, je lui ai demandé si c'était possible que je crée un jeu sans lui vraiment lui prêter trop concurrence. Ça aurait été pour moi mon école, en fait. Là où j'étais un peu déçue en stage, un peu déçue en école, des cours de marketing des années 2000 et de la finance qui m'intéressait pas du tout, qui était beaucoup trop théorique. Alors que finalement, la finance d'entreprise, quand on met les mains dedans avec sa boîte, c'est plus ou moins simple. Enfin, tu comprends beaucoup mieux, en fait. C'est plus c'est beaucoup plus du concret. Et donc, en fait, j'ai créé un jeu. Je me suis associée avec quelqu'un qui était avec moi en école et qui était aussi chez EY à cette époque. Et c'était en 2017, début 2017. On avait 22 ans. On a créé un jeu vraiment en 3 mois. On a exécuté un peu comme des bourrins. C'est-à-dire qu'on a copié un jeu aux États-Unis avec les blagues françaises. C'était un jeu de mèmes. Ça s'appelle Quand Même avec un S. On l'a mis sur le marché en septembre. On en a vendu 1000 en 2 mois et demi. On a bénéficié de Noël et en fait de tout l'attrait des clients sur ce segment de marché. Ouais. En fait, à l'époque, à la Fnac, moi, ça m'avait un peu choquée. C'est que en 2015-2016, il n'y avait pas du tout de rayon de jeux party games. Et en fait, je l'ai vu évoluer depuis 2015. Donc, 2017, quand on est arrivé, il y avait 5-6 jeux. Et là, maintenant, c'est un énorme rayon, en fait, avec des jeux un peu transgressifs, etc. Et donc, en fait, cette première entreprise, ça a vraiment été mon école. Ça m'a vraiment permis de vivre mon école de commerce beaucoup mieux, de comprendre pourquoi on apprenait tout ça et d'être vraiment dans le concret. Et avec mon associé, ça a vraiment été la façon de faire un petit peu de marketing, faire un petit peu de gestion fournisseur, faire un petit peu de finance, faire un peu tout, et aussi comprendre, tu vois, comment on marche, comment on vend, enfin comment on met un produit sur Amazon, comment on gère des distributeurs pour être à la Fnac. Et en fait, ça a été mon école, j'ai adoré.
Trop cool.
Et ça m'a suivi pendant toutes mes études et pendant tous mes stages, parce que j'ai continué à avoir des stages bras droit cofondateur dans des boîtes, gestion de projet, etc. Et du coup, en 2019, j'ai pris un CDI en gestion de projet tech. Premier CDI après la fin de mes études. Et j'ai été hyper mal à l'aise, en fait, dans CDI, parce que même si la boîte, elle était super, les fondateurs, moi, je les admirais, la méthodologie était bien, c'était la méthodologie agile pour faire des migrations cloud, etc. Juste, encore une fois, ça ne me ressemblait pas. Moi, ce qui me ressemble, c'est de créer et d'être hyper libre. Enfin, c'est vraiment mon caractère. Et je m'en suis vraiment rendu compte pendant mes études, parce qu'avant, je me considérais que je me connaissais pas. Et en fait, en 2019, je me suis dit, bon, pareil, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir rester dans ce CDI, je préfère laisser la place à quelqu'un qui est meilleur que moi, qui va pouvoir monter cette boîte avec les fondateurs beaucoup plus vite, parce que j'étais une des premières employées. Et donc, au bout de 4 mois, j'ai démissionné parce que j'avais rencontré The Family, j'avais postulé à leur programme d'entrepreneuriat Gold Up pour monter une deuxième boîte. J'avais pour idée de faire d'autres jeux, mais un peu différents. Toute seule cette fois-ci, et j'ai rencontré Alice de The Family, j'ai rencontré la team de The Family, et ça a été un peu une révélation pour moi. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais en étant salarié, vu ton profil, vu ce que tu as réussi à faire? Parce que ma boîte à cette époque, avec mon associé, elle faisait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires en y passant une heure par semaine. Tu vois, c'était
pour certaines personnes,
exactement. C'est vraiment le concept du side project qui t'excite vachement au début, mais comme moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite. Au bout d'un moment, ça m'intéressait plus trop. Il fallait que je passe au stade au-dessus, dans le sens où une fois que tu sais comment tu fais pour distribuer les jeux, pour les produire, et que t'en as créé 3 et que même ils sont distribués en France, Suisse, Belgique et même au Québec, bah t'as un peu envie de passer. Enfin, à 25 ans, tu t'ennuies. Enfin, t'as envie d'apprendre d'autres choses. Donc c'est pour ça que j'avais continué les CDI, etc. Mais The Family, en fait, ça a été un petit coup de cœur. J'ai adoré mon contact avec Alice Aguri, et on s'est dit qu'on allait monter quelque chose ensemble, et qu'au lieu de participer à Gold Up, j'allais être intervenante et que j'allais raconter mon expérience auprès des filles de Gold Up. Donc voilà, okay. Et après, c'est allé vers Maybe, etc.
Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu t'es tournée vers l'entrepreneuriat assez naturellement. En fait, tu as toujours aimé créer des choses, etc. Même si tu t'en rendais pas forcément compte au départ. Et c'est justement à travers ce premier projet potentiellement que tu t'es dit, bah tiens, effectivement, j'aime bien créer des choses, mais tu es ensuite retournée dans le salariat. Puis effectivement, après, tu as fait la rencontre de The Family, quoi. Ça s'est fait un peu comme ça, ton parcours, c'est ça?
Exactement. Et puis moi, je pense que souvent, je sais pas si c'est l'éducation française ou autre, mais tu vois, on nous demande pas de choisir des cours, on nous demande de choisir une filière, on nous demande pas de... Enfin, moi, j'ai ma petite cousine qui est aux Philippines et qui est dans un lycée international. Et tu vois, typiquement, on lui fait choisir des cours, je pense que c'était dès la sixième, enfin l'équivalence de la sixième en France, où tu vois, elle a commencé à coder à partir de la sixième. Elle a fait aussi des travaux manuels, enfin à travailler le bois. Elle s'est engagée dans une association humanitaire, mais via l'école, pour aider les animaux qui étaient abandonnés. Et en fait, je trouve que ça te permet de construire un peu ta personnalité, ton caractère, et t'intéresser vraiment et commencer à faire des choix. Parce qu'en fait, c'est un peu le problème qu'on a tous eu. Enfin, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu le même problème, c'est ok, j'ai fait des stages un peu parce qu'on m'a dit d'aller dans ces stages-là, j'ai fait une prépa aussi. Et en fait, j'arrive en école de commerce et j'arrive à la fin de mon école de commerce. Et légère dépression parce que je ne me connais pas et je ne sais pas quoi faire, etc. Enfin, c'est vraiment... Et en fait, je trouve que plus on se connaît très tôt, et moi, je voulais être cuisinière, mais je savais très bien que ça n'allait pas forcément correspondre parce que... Bref, je pense qu'il faut commencer quand même très très bas, c'est très très dur mentalement, c'est très très dur physiquement, et pour avoir des potes qui sont cuisiniers, c'est très 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 dur. Et finalement, ça ne me correspond pas tellement, mais... J'aurais bien aimé pouvoir faire un peu des choix qui me correspondent un peu plus tôt, un peu plus tôt dans mon parcours scolaire. Et j'ai pas eu l'opportunité, je vais pas dire que c'est la faute du système français, je pense que j'aurais pu les faire, mais j'avais pas un attrait, par exemple, pour être designeuse dès le début, et tu le sais, à partir de tes 16 ans, ou travailler dans la mode, ou alors être architecte. Vraiment, moi, je savais que j'allais travailler en bureau, mais où, je sais pas trop, tu vois.
Et puis aussi bien, tu feras plus tard un projet lié à la cuisine, tu vois, potentiellement, tu reviendras à ce premier amour, tu vois, entre guillemets. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi par exemple, jusqu'au bac, j'étais totalement perdu, parce que finalement, tu fais pas vraiment de choix, tu suis un peu les mêmes cours, tu t'aimes pas forcément ce que tu fais. Et après, heureusement, j'ai trouvé une école du web, tu vois, qui m'a quand même recentré sur les choses qui m'intéressaient, le digital, le marketing, la com. Mais c'est vrai qu'avant, finalement, tu suis le parcours, tu te dis, bon, de toute façon, les filières, elles se ressemblent un peu toutes, hein, même s'il y a des matières qui sortent plus que d'autres.
Exactement, oui.
Mais effectivement, t'es un peu paumé, quoi. Et c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de gens et dans beaucoup d'entrepreneurs aussi, justement. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, on arrive. Si tu voulais rajouter quelque chose.
Non, mais en fait, je trouve que on est tous paumés à un moment de notre vie et c'est normal. Et même quand t'es entrepreneur globalement, t'as une période où tu te remets en question et t'es paumé parce que tu sais, tes potes ils gravissent les échelons et ils chopent des promotions tous les ans et toi, t'es là, tu sais pas trop où tu vas et en fait tous les choix ils dépendent de toi. Donc c'est une telle liberté que ça peut te perturber et te remettre en question et te permettre et à un moment de ta vie être paumé. Mais moi, ma chance, et je pense que toi aussi, c'est d'avoir été paumé tôt. Moi, je me rends compte que la crise de la trentaine, de « bon, c'est bon, j'ai fait 5 ans dans cette boîte, je vais où maintenant ?» Elle est réelle. Et pareil, la crise de... Enfin, moi, je le vois, là, ça fait à peu près un peu plus de 2 ans qu'on travaille. Moi, j'ai 27 ans. Je le vois, j'ai des amis qui disent « bon, c'est bon, j'ai fait mon premier job en CDI, mais maintenant, je ne sais pas où aller. » Tu vois, c'est réel, en fait, le fait d'être paumé. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste essayer par certains moyens de se connaître un petit peu.
C'est clair. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a encore plus de gens qui sont dans une quête de sens. Donc effectivement, quand ça fait 5 ans que tu bosses dans la même boîte, que tu trouves aucun sens à ton taf, forcément, à un moment donné, tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» Et je trouve
Exactement.
Qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui en arrivent là. On arrive à MyLubi, qui du coup a été créé en janvier 2020. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est MyLubi ?
Ouais, alors MyLubi, c'est un peu né d'une volonté pour moi de m'engager beaucoup plus à mon échelle dans un secteur, que ce soit dans la création d'un produit ou d'un service qui permet vraiment d'apporter une solution qui aide et qui est différente aux personnes. Et donc en fait, je me suis énormément posé la question de qu'est-ce que je voulais faire pour vraiment me lever le matin et vraiment être super contente de bâtir pendant les 10 prochaines années une entreprise où les clients sont super contents en fait d'avoir eu cette initiative et aussi une entreprise que j'aurais aimé avoir, donc vraiment d'un point de vue consommateur. Et donc en fait, quand j'ai rencontré The Family, on a décidé de monter une petite boîte de jeux, et donc pareil, c'est ma deuxième entreprise qui tourne aussi. Et en fait, moi, encore une fois, je me suis un peu ennuyée. Je me suis dit, à partir de octobre 2019, j'ai eu cette réflexion. Et c'est un peu venu d'un coup, dans le sens... en fait, moi, j'habite à Pigalle. Les sex shops, c'est horrible. C'est horrible. Je vais pas dire que c'est horrible, mais ça donne pas envie, ça répond pas aux envies de la majorité de la population, et notamment des millennials, du mieux consommer, du consommer clean, des packagings qui sont ultra attractifs, et aussi également de l'éducation sur l'utilisation des produits. Parce qu'il n'y avait pas trop, tu vois. T'arrives dans un sex shop, je sais pas si tu sais comment c'est construit, mais moi j'en ai fait quelques-uns pour vraiment comprendre. C'est au début, t'as les produits qui sont un peu accessibles, donc typiquement le lubrifiant, et peut-être un petit bandeau pour te bander les yeux, tu vois. Et plus tu t'enfonces dans le magasin, plus tu as des choses qui sont un peu, qui peuvent devenir jusqu'à glauques, qui peuvent devenir aussi jusqu'à très fétichistes. Enfin, peu importe, je suis pas, faut pas trop que je juge. Enfin, la sexualité, elle est diverse pour toutes
c'est
les personnes.
C'est très obscur, je trouve, ces magasins, tu vois. C'est toujours un peu ambiance. un peu chelou, quoi.
Ouais, le sous-sol d'une boîte de nuit à Berlin ou un truc comme ça. Mais ouais. Non, c'est sûr. Et en fait, moi, je me suis dit, il y a rien en France, aux États-Unis, en Allemagne, ils commençaient à avoir des shops vraiment super stylés où les lubrifiants, les huiles de massage et tout, elles étaient vraiment vendues comme des cosmétiques et pas comme des produits des produits sexuels, tu vois. Où les shops, ils étaient vraiment super beaux, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Pourquoi en France on n'a rien? C'est comme si, tu vois, pour les shampoings, je te disais que t'avais que Dope et une autre marque de supermarché, enfin le petit Marseillais, tu vois. Mais non, en fait, le shampoing aujourd'hui, t'as vachement d'offres qui permettent de correspondre un peu à toute la population. Ceux qui vont consommer des shampoings solides, ceux qui vont consommer des shampoings naturels, ceux qui vont. Enfin, il y a énormément d'offres et je comprends pas. Je pense que la sexualité, elle est hyper diverse et il n'y a pas de normalité, il n'y a pas d'anormalité dans la sexualité de chacun. Et je comprenais pas pourquoi il y avait une marque qui adressait pas un peu les besoins et les envies des personnes qui veulent un peu explorer leur sexualité doucement, à leur rythme, mais en ayant les bons nécessaires de produits. Donc en fait, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Une marque qui crée des nécessaires de produits de bien-être intime, qui soient assez désirables, qui soient clean, qui soient made in France, qui ait une forte marque derrière et une belle éducation derrière. Et également, il y avait un autre point qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'est que l'éducation sexuelle, on l'a pas du tout eu au lycée, en tout cas pour ma part et pour mes amis du lycée, y en a plein qui ont jamais eu d'éducation sexuelle, ou alors max les IST qu'on peut se transmettre et la contraception, et encore la contraception, la pilule et les préservatifs, mais il y a plein d'autres choses. En fait, je me suis dit, l'éducation sexuelle, enfin, on pense que avoir une relation sexuelle, ça, c'est de l'inné et tu vas apprendre à gérer le problème de libido de ton partenaire, de toi, gérer ta confiance en soi pour te mettre à nu devant quelqu'un, enfin. Je pense pas. Je pense qu'en fait, on a besoin de lire des choses, d'écouter des gens, d'écouter des retours d'expérience pour se sentir bien dans son corps et bien dans sa sexualité. Et pour moi, il y avait beaucoup de prises de parole sur des comptes Instagram, sur des comptes YouTube, etc. Et je me suis dit, j'ai envie de faire partie de cette révolution sexuelle qui est en train de se passer. J'ai envie de proposer les produits des personnes qui écoutent tout ce genre de comptes et qui ont envie d'explorer leur sexualité. Mais sans créer, tu vois, une gamme de produits purement marketing, où t'as un lubrifiant à la fraise, un lubrifiant à l'abricot, un lubrifiant pour l'anal, un lubrifiant pour les femmes, un lubrifiant pour les hommes. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de non-genré, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que le lubrifiant à base d'eau naturelle et un peu universel pour toutes les pratiques, sextoy, préservatif, pénétration, masturbation, il y avait un besoin de référence du lubrifiant naturel. Donc on a commencé par ça et on s'est dit qu'on allait le monter sur Ulule et tout ça. Je vais te le raconter, yes, mais c'était vraiment notre point de départ.
Donc MyLubi, c'est un lubrifiant qui est naturel, qui est vegan, qui est made in France. Comment est-ce que tu as créé, fabriqué ce lubrifiant et justement, est-ce que c'est ta propre formule? Parce qu'on voit beaucoup de produits en marque blanche, etc. C'est assez tendance. Et est-ce que tu peux justement nous en dire plus là-dessus?
Ouais, bien sûr. Justement, en fait, avec toute cette réflexion de, j'ai adoré faire des business. Moi, j'appelle ça business. Tu vois, c'est mes boîtes étudiantes qui te permettent de gagner un peu d'argent, qui te permettent d'être un peu libre, de te sortir d'un CDI. Mais là, j'avais vraiment envie d'être beaucoup plus vraie envers moi-même, donc de créer vraiment quelque chose de différent. J'avais pas envie de créer une marque blanche et mettre une énième solution sur le marché avec une couche de marketing. Pour dire hello, moi aussi je fais un truc stylé, moi aussi j'ai quitté mon taf et je vais faire un post LinkedIn. Enfin, je trouve ça très bien, je vais pas dénigrer non plus les marques blanches, hein. Je pense que il y en a qui marketent très bien des marques blanches et ça permet de mettre des bonnes solutions, parce qu'il y a des marques blanches et des produits très clean, hein, qui ont été faits en laboratoire, qui ont fait passer tous les tests, etc. Mais nous, c'était pas notre volonté. Notre volonté, c'était vraiment de créer un produit différent. Donc, je me suis énormément formée sur tous les textes qui existaient aux États-Unis, sur des ingrédients qui devenaient controversés en lubrifiant, mais pas forcément en cosmétique. Donc, typiquement, la glycérine, il y en a dans tous les lubrifiants, dans tous les cosmétiques. Dans les cosmétiques, il n'y a aucun sujet sur cet ingrédient. C'est un bon ingrédient végétal la plupart du temps, et c'est vrai que il commençait à avoir un peu des rapports et des études qui disaient que ça pouvait créer, de par son effet sucrant, la prolifération de bactéries et la création de mycoses pour les femmes qui sont sujettes, enfin pour les femmes et les personnes qui sont sujettes aux mycoses. Et donc moi, je me suis dit que j'allais un peu creuser cette partie un peu innovation, de faire un lubrifiant sans glycérine, de changer la base un peu. Et j'ai énormément posé des questions à toutes les personnes autour de moi. J'ai fait une étude de marché, mais vraiment informelle. J'ai pas partagé un sondage. J'avais vraiment envie d'avoir des échanges beaucoup plus qualitatifs. Et donc, j'ai demandé quel était le rapport des gens au lubrifiant, pourquoi ils en avaient utilisé, pourquoi ils en avaient pas utilisé, qu'est-ce qu'ils reprochaient au lubrifiant des marchés. Et j'ai compris que les lubrifiants à base d'eau, généralement, ils sont hyper connus pour sécher très vite et pour coller et pour avoir une odeur bizarre, être fabriqués en Chine, avoir un design ultra genré, pas très joli, rose et blanc pour les personnes qui ont un problème, qui est la sécheresse intime, alors que le lubrifiant, pour nous, c'est pas un médicament, c'est un exhausteur de plaisir, donc on l'a vraiment marketé comme ça. Et donc, on s'est entouré, j'ai eu la chance de rencontrer Kaina de CompoScan, qui a été rebrandée Mireille App, qui est une application qui scanne les cosmétiques, qui est le concurrent de Yuka, mais qui est vraiment axé sur les cosmétiques, qui est un peu plus exigeant sur la notation. Et en fait, elle a un biologiste derrière qui fait la notation de tous les ingrédients, donc elle m'a aidée sur la structuration un peu de la base de la formule. Et après, nous, on a recherché les actifs qui pouvaient hydrater et apaiser les muqueuses après un rapport. Donc ça a été la démarche de création. Et on a trouvé, bien évidemment, on avait un cahier des charges ultra ultra sévère, donc vegan, naturel, made in France, sans substances controversées, etc. Et on a fait un peu une appel d'offres auprès des laboratoires que j'avais trouvé. On est tombé un peu in love d'un laboratoire français qui était prêt à faire, tu vois, cet effort de ok, je vais plus loin que je vais te faire un produit et je vais te rajouter un actif et ce sera le tien. Non, on va faire un effort. Et en fait, ça a créé des problèmes par la suite sur la production et sur les tests. Mais au moins, on était vraiment ultra fiers de cette formule. Et moi, je la connaissais vraiment en profondeur. C'est la différence entre un entrepreneur qui lance en marque blanche, il va connaître son marketing. Moi, pour le coup, je connais ma formule par cœur. Je sais lire une listing key. Enfin, je me suis formée, tu vois.
Bravo, parce que ça rajoute énormément de difficultés justement sur le produit, puis ça montre que voilà, que t'as vraiment envie de faire quelque chose de parfait, quoi. C'est quand tu conçois une formule, c'est génial, donc bravo pour ça. Et une autre question, c'est à quel point c'est difficile de se lancer dans la sex tech en France et en tant que femme?
Ok, écoute, la sextech, moi je le dis assez souvent, il y a une triple peine dans la sextech quand tu entreprends. De un, t'as une énorme éducation du marché, et nous on l'a vu, c'est un marché très tabou, c'est très compliqué d'en parler, c'est hyper compliqué de dire le lubrifiant, ça sert à quelque chose, ça a un vrai intérêt, c'est un exhausteur de plaisir. Et donc nous, on l'a vraiment, pendant un an, on l'a rabâché jusqu'à notre campagne, vraiment on l'a rabâché, on a dit à quoi ça servait, parce que les gens ne savaient pas à quoi ça servait un lubrifiant, au même titre que je peux pas utiliser de sextoy parce que mon partenaire sera jaloux. Enfin, c'est des biais comme ça qu'on a, et des tabous et des clichés qu'on a, du style aussi sur le lubrifiant. En fait, le lubrifiant, c'est réservé aux gays, c'est réservé à la sodomie, ou j'en utilise pas, moi mon corps il va très bien, il mouille assez pendant les rapports, je le prendrai mal si on en utilise, parce que ça voudrait dire que ma partenaire elle a pas envie de moi. Tout ça, nous on est en train de les combattre, et c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'éducation sur un marché plutôt que de dire bonjour, j'ai créé un shampoing, il est génial, vous allez voir, parce que vous savez à quoi ça sert un shampoing, tu vois. Le lubrifiant, les gens, la majorité des personnes qui nous ont consommé, ils ne savaient pas à quoi ça servait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'après ils en recommandent, et ils le recommandent à tous leurs proches, c'est qu'ils sont super contents en fait d'avoir découvert l'utilité de ce produit, tu vois. Donc ça, c'est la première peine. La deuxième peine, c'est le blocage de l'acquisition payante. C'est très compliqué de faire des pubs Facebook, des pubs Instagram, des pubs Google. On est bloqué la plupart du temps, même des pubs Taboola. Je pense que sur TikTok, on s'est fait bloquer le premier jour dès qu'on a mis quelque chose, donc c'est quand même assez compliqué. Et en fait, quand tu te fais bloquer ton acquisition payante, sachant que moi, un de mes associés minoritaires est vraiment expert là-dessus, tu te mets quand même un deuxième couteau et des bâtons dans les roues encore plus, parce que c'est très compliqué. Tu te dis comment tu vas faire ton acquisition, comment ça va être, est-ce que ça va être que de l'organique, est-ce que c'est très compliqué en fait. Tu réfléchis à tous les autres moyens de parler à tes potentiels clients. Et le troisième blocage, effectivement, c'est le blocage des investisseurs et des banques, qui ont un peu peur de leur image et un peu peur que ce soit associé à du porno. Et nous, on est là aussi. Enfin, hier, tu vois, typiquement, j'avais un rendez-vous avec la banque. C'est une des banques qui nous a fait confiance, et ils sont très contents parce que notre image, ils l'adorent. Ils voient que c'est pas du tout du porno, que c'est vraiment vendu comme des cosmétiques. et du bien-être. Enfin, vraiment, nous, on se dit qu'on est sur le marché du bien-être plus que sur le marché sexo. Et donc voilà, donc déjà il y a une triple peine pour entreprendre dans la sextech. Donc en fait, au début, moi je m'étais dit, mais c'est au même titre qu'un cosmétique, il y a zéro barrière à l'entrée, il y a juste à avoir un petit peu de sous pour développer la formule ou pas, pour faire une marque blanche et se lancer, faire un peu de marketing, bien s'entourer, et c'est parti. Et en fait, pas du tout. Enfin, t'as des géants en face de toi qui sont hyper bien implantés, comme Durex et Manix. Oui, il y a un boulevard devant nous parce qu'il n'y a personne qui fait comme nous pour l'instant, qui veut faire des nécessaires un peu made in France quand c'est possible, naturel, innovant, avec une belle éducation autour et une belle image. Mais c'est très compliqué parce que l'acquisition, bah, tu ne peux pas l'avoir. Donc voilà, et en tant que femme, honnêtement, je pense que je t'en avais déjà parlé, moi, j'ai pas vraiment de... Enfin, moi, je me considère plus comme une personne, je vais pas dire non binaire ou autre, hein. Enfin, je dis juste, je me considère plus comme une personne que comme une femme qui entreprend. Enfin, je m'identifie pas du tout à la femme qui a fait des sacrifices, qui entreprend, ouais. Mais j'ai pas eu, et honnêtement, j'ai pas eu de difficulté pour l'instant qu'on m'ait dit frontalement, ah, ça fait du bien, enfin, de voir des femmes qui entreprennent. Enfin, ça, on sait que je suis pas une personnalité à qui tu peux dire ça, enfin, que je recevrai pas ce genre de commentaires. Donc, des difficultés à être femme, je sais pas. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est mieux que chez BFM TV, tu parles en étant une femme qui porte le discours d'une sexualité inclusive et positive, plutôt que ce soit trois fondateurs qui sortent d'HEC, qui sont là juste pour le business, parce que, bah, t'as aussi un peu d'expérience personnelle qui dit que, bah, les femmes, elles ont aussi besoin, les femmes et les personnes qui ont des vulves ont aussi besoin d'avoir un peu plus de plaisir, VS, les personnes qui ont des verges, je crois. Donc voilà, mais honnêtement, je sais que je suis anormale là-dessus. Après, moi, je suis assez engagée pour l'entrepreneuriat féminin, mais moi, c'est pas, enfin, c'est même pas une question de me dire je suis une femme entrepreneur. Enfin, je me le dis jamais. Je ne suis, enfin, ou mon copain, c'est un homme entrepreneur ou autre, tu vois, je le dis pas. Enfin, c'est un non-sujet pour moi. Okay. Et j'ai pas eu de difficulté pour l'instant, mais peut-être.
ne t'inquiète pas, de tout le podcast, c'était la seule question sur le sujet. La question d'après, tu y as déjà un peu répondu, puisque c'est quels ont été les freins pour lancer et développer MyLuby. Justement, tu as aussi vaguement parlé d'un problème industriel sur la fabrication du lubrifiant. Comment ça s'est passé? C'était quoi? C'était des retards de fabrication, de livraison?
Ouais, alors en plus, ça c'est triple, enfin les trois freins là, sachant que nous, enfin j'ai lancé en fonds propres, je me suis fait accompagner par The Family, je dis on, hein, parce qu'il y a eu des stagiaires, etc., mais c'est moi qui ai monté la boîte. Mais ouais, on a eu des problèmes parce qu'on a lancé juste après le premier confinement, donc ça avait... En fait, notre laboratoire, il produit aussi des gels hydroalcooliques. Alors, je sais pas vraiment le lien gel hydroalcoolique soit intime, mais en tout cas, je sais qu'il fait. Et donc, ils ont été... Enfin, ils ont eu des délais de production plus longs, en fait, pour les lubrifiants. Bien évidemment, en crise sanitaire... Bah, 2020, bien évidemment, en crise sanitaire, moi, je pouvais pas leur reprocher de faire leur gel hydroalcoolique pour fournir le ministère de la Santé. Enfin, c'est, au bout d'un moment, faut être un peu éthique. Et donc, ça s'est passé comme ça. Donc, en fait, il y a eu des retards de production, mais également, il y a eu un problème sur la formule. Ils se sont trompés sur un ingrédient. Enfin, je te passe les détails, mais à se tirer les cheveux. Et du coup, ça nous a fait 3 mois et demi de retard. On a dû refaire un test. Et en fait, ça nous a pris 3 mois et demi en plus. Moi, j'avais tout prévu. Vraiment une gestion du planning, alors que c'est pas du tout mon expertise, mais j'avais vraiment fait en sorte que les contreparties, elles soient livrées juste après la campagne Ulule. Et bah, bien évidemment, il y a des retards. Moi, j'ai encore des copines là qui me disaient qu'elles devaient livrer leur campagne Ulule en janvier, qu'elles vont le livrer en mai. Enfin, tu peux jamais prévoir ces retards, notamment quand c'est un peu ton premier produit. Et du coup, nous, bah, il y a dû avoir des tests en plus. En plus, les tests, les laboratoires de tests, ils ont fermé. Et donc, en fait, on a lancé, on a livré les contreparties sur le deuxième confinement, donc mi-novembre. Et pareil, les gens, ils avaient changé d'adresse parce qu'ils partaient pour les confinements, ils partaient pour l'été, ils partaient. Enfin, ça a été d'une complexité énorme. Enfin, vraiment, cette campagne Ulule, à la fin, on était super contents parce qu'on en a vendu plus de 1700 en 30 jours. Notre objectif, c'était 100 précommandes, sachant qu'on n'avait qu'un produit. Donc voilà, on va en parler de comment on a fait ça. Mais effectivement, ça a été très compliqué de lancer entre deux confinements et en étant en compétition avec les gels hydroalcooliques, quoi.
C'est clair. Justement, cette campagne de crowdfunding sur Ulule, donc vous avez pas cassé la plateforme, mais presque plus de 1700 précommandes en 30 jours, c'est vraiment super cool. Comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu personnellement?
Alors, pour nous, déjà, Ulule, c'était une évidence, dans le sens où j'avais rencontré Célia, qui a créé Oumaï, et elle avait lancé un shampoing solide, elle avait complètement cassé Ulule, elle avait fait plus de 1000 précommandes. En plus, on avait vu l'année d'avant, Respire, qui avait aussi cassé Ulule, et qui avait fait, je pense, plus de 22 000 précommandes de son déodorant, ce qui est quand même énorme. Donc on s'est dit, bon, déjà c'est pas un sujet, on va sur Ulule, ils ont une communauté engagée pour les solutions qui sont engagées, un peu éco-responsables, made in France au possible et naturelles. Donc on s'est dit qu'on allait sur Ulule, et après en fait j'avais rencontré une personne qui avait lancé une campagne Ulule sur un jeu, et qui m'avait dit qu'il fallait vraiment préparer un an en avance, sauf que nous on n'avait pas un an. Je me suis vraiment mis à fond sur la boîte en janvier, et on voulait lancer en mars. Bien évidemment, avec le confinement, on a reporté. En plus, notre communauté, elle n'était pas prête. J'avais pas eu le temps de vraiment tester notre message, et également de faire de la co-création avec la communauté. Donc, on avait envoyé des échantillons, etc. Et donc, je pense que moi, je conseille pas mal de personnes là qui se lancent sur Ulule, parce que nous, on n'avait qu'un produit. Nos chiffres, ils sont vrais. On sait qu'il y a une tendance sur Ulule là qui est de changer un peu les chiffres. Typiquement, si toi, tu participes, ça ne te fait pas une contribution, ça t'en fait 10, tu vois. Enfin, il y en a plein qui font ça. Nous on a vraiment été vrais sur ce sujet-là. Et je pense que c'est quand même une belle campagne. Enfin, même si moi, j'aurais aimé avoir 3000, 4000, etc., tu veux toujours plus. Je pense que c'est une belle campagne parce que déjà, c'était un produit complètement tabou, où on n'a pas pu faire de Facebook Ads et de Instagram Ads, où la presse en avait rien à foutre de nous. On avait dû trouver des relais de croissance un peu différents et des relais d'acquisition différents. Et je pense que vraiment, ce qui a été vraiment hyper salvateur et ce qui nous a fait vraiment, je pense, nos 500 premières commandes hyper rapidement, c'est le côté pas storytelling, parce que j'aime pas trop storyteller, enfin c'est pas trop mon truc de me montrer à la caméra, etc., mais vraiment d'être hyper fidèle au why, de pourquoi on fait ça et pourquoi on est différent. Et donc finalement il y avait eu, je pense qu'on avait 2000 personnes qui étaient sur notre compte Insta et qui étaient, enfin je pense la moitié voulait commander le jour J. Enfin, la moitié était persuadée de la valeur qu'on apportait et avait envie de tester notre produit, et également avait envie de participer à l'aventure. Tu vois, ça a été très très humain comme campagne, notamment au niveau des influenceurs. Une semaine avant, on leur a envoyé 50 échantillons. C'était des tubes blancs, pas très jolis, mais avec notre formule dedans. Et ils ont vraiment été séduits par le message d'inclusivité, que l'amour, c'est une question, et le sexe, c'est une question de personne, c'est pas une question de genre, de poids, de taille, de là où tu viens, etc. Et donc, en fait, ils ont été touchés par ce message et on a investi zéro en influence. Donc ça, tu vois, déjà, trop les cool. Influenceurs, ça a vachement bien fonctionné. En fait, la communauté de personnes, de consommateurs et d'influenceurs ont vachement bien fonctionné, parce que on lançait pas une énième crème similaire ou un énième shampoing. On arrivait vraiment sur un produit sexo, on arrivait au bon moment parce que c'était la sortie du confinement, c'était le 2 juin. Et donc bien évidemment les gens avaient été restés enfermés, ils en avaient marre, et je pense qu'ils avaient un peu envie d'avoir des sujets un peu plus légers, un peu plus chauds avant l'été, et je pense qu'on est sorti pile au bon moment, donc on a bien fait de la décaler, la campagne. Et après, enfin bref, il y a eu plein d'autres petites choses qui nous ont propulsées, notamment de la newsletter Ulule. C'est un peu le Graal d'être dedans et donc d'harceler Ulule tous les jours en disant quand est-ce que tu mets dans ta newsletter, parce qu'ils ont une communauté super engagée. Et également, on a fait le buzz sur LinkedIn.
Ok, trop cool. Donc en termes de com, les canaux du coup, influenceurs, Ulule et puis LinkedIn, puisque bah, justement c'est ouais. Hyper compliqué de quand on peut pas faire de publicité sur les réseaux sociaux, c'est quand même ça rend encore plus de difficultés, hein, déjà qu'il y en a déjà pas mal, donc cette ouais. Votre communication s'est déroulée de cette manière en fait.
Oui, voilà, c'est ça, et on a vraiment fait le buzz. Enfin, à l'époque, il y a eu Maxime Blondel qui m'a aidée sur la campagne Ulule, sur la communication sur LinkedIn, etc. Il était en transition entre être salarié chez The Family et créer sa boîte avec The Family. Il nous a aidés sur Ulule pour un peu transmettre le message. En plus, on avait quelques stagiaires qui contactaient à la mano des personnes, mais globalement, sur LinkedIn, on a fait quelques posts. Moi, je connaissais pas du tout LinkedIn. Enfin, j'avais jamais communiqué dessus. Moi, je suis pas trop LinkedIn. Enfin, je fais des posts quand vraiment on en a besoin. Mais en tout cas, nos posts. Enfin, je me souviens, j'avais eu 500 likes sur mon premier post. On avait eu des dizaines, voire des dizaines de milliers de vues sur notre post. Il y en a même un qui a été vu plus de 200 000 fois. Enfin, ça a été vraiment, je pense qu'on a cassé Ulule, mais aussi on a cassé LinkedIn à ce moment-là. C'est-à-dire que ça parlait que d'entreprise et tout. Et nous, on était là pour parler de sexe et de lubrifiant. Et
cool.
Du coup, bien évidemment, ça changeait sur ton feed LinkedIn de voir des posts RH, de voir des posts de j'ai monté ma boîte. Et en fait, entre les deux, bah, t'avais pourquoi on utilise du lubrifiant. Sans transition, ouais. Exactement.
Trop cool. Ensuite, question plus large, pourquoi le sexe est aussi tabou en France, selon toi ?
En fait, je pense que ça doit rester... Enfin, la limite entre le tabou et l'intime est complexe, dans le sens où moi, je pense que ça doit rester de l'ordre de l'intime. Enfin, à titre personnel, moi, je suis assez ouverte à en parler avec des amis, mais je pense que rentrer dans les détails crus et de tout ce que tu fais et de tout ce que tu comptes faire et de tout ce que tu as utilisé comme sextoy et comment tu les utilises, etc., je pense que il y a une part d'intime à garder. Moi, c'est ma conviction personnelle. C'est quand même se mettre à nu et se donner à quelqu'un, et même quand on se masturbe de son côté soi-même en solo. Donc, je pense que ça doit rester de l'ordre intime. Moi, j'ai pas envie de tout étaler, d'être dans le côté très cru et de tout dire. Notamment dans notre communication Instagram, on parle beaucoup de sujets un peu légers, pas trop médicaux parce que c'est pas notre rôle. Mais c'est important pour nous d'aborder ces sujets de communication, de tout ce qui est un petit peu psychologique et aussi qui va un peu vers la sexploration. Mais oui, le sexe est tabou en France. Oui, je me suis rendu compte qu'autour de moi, même si on se disait tous un peu ouverts, en fait, avec mes amis, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais créer My Lubie, ça parlait plus de combien de personnes, avec combien de personnes on avait eu de rapport. Que, j'ai vraiment appris récemment à me connaître moi-même, ou j'ai utilisé un lubrifiant, ça a changé ma vie, ou j'ai testé pour la première fois un sextoy, et ça a été intéressant. Et donc, je pense que ça reste tabou, moi je le vois dans les échanges qu'on a, mais je pense que les personnes qui sont intéressées, les personnes s'intéressent de plus en plus à la sexploration, de façon bienveillante, progressive, et vraiment en fonction de leur envie. Pour moi, j'ai pas du tout envie de donner des injonctions sur le fait d'avoir 12 sextoys, coucher, faire des plans à 3 tous les samedis soirs. Enfin, vraiment, moi, je pense que il y a beaucoup d'injonctions à l'hypersexualisation, à avoir 130 000 partenaires, ouais. À tester tout, à être le plus ouverte possible, à être en couple libre. En fait, je pense que c'est pas du tout ça, le sexe bienveillant, c'est vraiment avancer et explorer et avoir les outils et les informations nécessaires pour le faire. C'est important d'être ouvert si on veut l'être, mais de, encore une fois, il y a des moments où t'as pas de libido, il y a des moments où t'as pas envie d'en parler, et ça reste tabou pour toi pendant un moment de ta vie. C'est très psychologique, c'est très axé aussi sur le bien-être global, etc. Donc oui, je pense que c'est encore un peu tabou, mais la preuve que ça le devient de moins en moins pour certaines personnes. Après aussi, il y a des questions de leur religion où c'est tabou, et ça, de toute façon, ça sera comme ça. En fait, chaque personne est différente. Je pense que la preuve, c'est les communautés qui ont les comptes sexo, typiquement Jouissance Club et son livre qui est juste génial, que j'ai depuis le début, qui est incroyable, qui te permet d'avoir des tips très inclusifs de comment faire plaisir à une verge, comment faire plaisir à une vulve, etc. Et aussi au plaisir anal. Et je pense qu'elle, elle a plus de 800 000 sur Insta. Pareil, le CUNU, merci beaucoup, Wikipédia, il y en a tellement, en fait. Orgasme et moi aussi, elle est géniale. En fait, elle est vraiment, pour moi, tous ces comptes-là, ils sont d'utilité publique parce qu'ils ont permis de sauver la sexualité, la vie sexuelle et la relation entre des partenaires, mais de milliers de personnes. Et donc vraiment, en fait, je pense que c'est moins tabou, mais il y a une façon de l'adresser. Il ne faut pas être trop cru, faut pas être... Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que ça devient moins tabou, le sexe.
Ce qui ne doit pas être tabou, c'est pas le sexe, c'est l'éducation sexuelle, en fait, pour que ce soit accessible à tous.
Exactement, c'est exactement la conclusion. Voilà, c'est ça. C'est juste, c'est dommage. Après, encore une fois, moi aussi, j'étais dans un collège et lycée catholique, et tu vois... bien évidemment, ils vont pas nous parler de plaisir ou de masturbation. Enfin, tu vois, il y a une question aussi, c'est l'éducation française avec si c'est un peu religieux ou pas.
C'est très SVT,
mais
quoi.
Je pense qu'il y a plein d'autres moyens. C'est très SVT encore. Je pense que dans la majorité des livres d'SVT, le clitoris n'était pas représenté. Enfin, j'ai pas la stat en tête, mais jusqu'à 2000, dans les années 2000. Clair. En fait, on parle pas de plaisir, on parle pas de respect, on parle pas de consentement, on parle pas de connaissance de son corps, on parle pas de limites aussi. Quelles sont les limites que tu peux imposer ? C'est aussi normal d'avoir des limites sexuelles, et ça, il faut le dire tout au long de sa vie. Ça rejoint ce que je disais, on n'est pas obligé d'être le plus ouvert possible parce que c'est à la mode ou autre. Enfin, je pense que c'est assez intéressant en fait de donner l'éducation de donner accès à une éducation qui soit déjà gratuite et très bienveillante et qui soit pas là pour donner des injonctions et pour juger. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment hyper important et c'est ce que font un peu tous ces comptes Instagram, toutes ces chaînes YouTube. Et nous, on a envie d'être dedans aussi, de créer un peu notre média et tout. On y réfléchit. Bon, je vais pas trop dire, mais on est en train d'y réfléchir.
Trop cool. Et du coup, c'est encore une fois relié à la dernière question concernant MyLubi, c'est quels sont les objectifs futurs pour MyLubi ?
Alors, les objectifs futurs, bon, alors là, actuellement, on est dans le recrutement, parce que c'est vrai que moi, au bout d'un moment, c'est un peu complexe de tout gérer. Donc, pour l'instant, moi, j'ai deux associés minoritaires, donc The Family et un autre associé qui gère toute l'acquisition, qui est un peu compliqué. J'ai une alternante qui était en stage de 2 mois pendant notre campagne Ulule, avec qui on s'est trop bien entendu et qui a un profil très entrepreneur, donc elle touche à tout, donc c'est génial. Mais là, on est en train de recruter 2 stagiaires, donc une stagiaire en développement produit, parce qu'on a envie d'élargir la gamme, donc ça, c'est un de nos objectifs, et également une en communication, en social media, etc. Donc, élargir la team. Rentrée de mon associé opérationnel Pierre qui va arriver en juin et qui va devenir CEO, qui a vraiment une expérience en structuration d'entreprise, en pilotage des métriques à contrôler, etc. Et même en fait il est très très bon aussi en produit, il est un peu très très bon aussi en marketing, il est un peu bon partout. Donc moi je trouve que c'est le bon profil CEO qui va un peu porter la boîte très très haut, là où moi je suis très fondatrice. J'ai des instincts, je fonctionne à l'instinct, je sais ce que je veux faire. Après, sur structurer une boîte, enfin moi je vois mes limites au jour le jour, donc je suis contente qu'il arrive en juin. Donc ça va être côté team. Côté élargissement de produits, on a à la rentrée, on a 2 lancements de produits, une huile intime donc en septembre. Je pense que ce sera septembre ou juillet, on ne sait pas encore trop, on aura peut-être un peu de retard, donc plutôt septembre, une huile intime au CBD qui va permettre d'hydrater, d'apaiser les muqueuses, de nourrir, d'apaiser les muqueuses et aussi de détendre avec le CBD qui est assez connu, des préservatifs parce qu'on nous les demande énormément. En fait, nous, on fait tout un peu en co-création, donc on demande toujours l'avis des personnes, on essaie de les avoir au téléphone toute la semaine, nos clients, ceux qui nous ont jamais consommé, etc., pour vraiment comprendre leurs envies sur cette marque de bien-être intime qui est MyLubi. Donc, élargissement de la gamme, il y aura un 4e lancement fin d'année 2021 et après 2 autres lancements début 2022. Et donc, comme tu peux te douter, tout ça, ça demande énormément d'investissement. Donc, on est aussi en train de travailler là-dessus. Donc, emprunt bancaire, prêt, subvention et pourquoi pas à un moment faire un petit seed, une petite levée de fonds, un seed à la rentrée aussi, parce que tout ça, ça demande énormément de coûts de développement, coûts de R&D, de stock, tu vois, de financement de BFR.
Ok, on va passer à la 3e partie du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué ces dernières années ?
C'est dur. Bon, alors je pense que j'ai adoré rencontrer Alice Zaguri. En fait, ça a été une rencontre marquante parce qu'elle m'a dit que tout était possible de faire, j'avais déjà fait quelque chose et elle m'a donné les clés pour me dire: Anne, si t'as envie de monter ta boîte, si t'as envie de quitter ton CDI, tu peux le faire, t'as les moyens, ça ne dépend que de toi et tu vas le faire. Et donc tu vois, elle m'a donné énormément confiance en moi, elle m'a un peu coachée pendant les premiers mois où je gravitais autour de The Family un peu plus avec cette boîte de jeux qu'on a créée ensemble, etc. Donc elle a été vraiment hyper inspirante sur ce côté-là, en mode c'est toi qui fais ton destin, c'est toi qui fais ta carrière, c'est toi qui fais ton ambition, donc n'aie pas peur. Et en fait, t'as déjà une expérience et donc t'as aucune raison de te faire peur. Et c'est elle qui a commencé. Moi, j'étais un peu entrepreneur de l'ombre, c'est-à-dire j'adorais être derrière mon ordi, mais je mettais rien sur LinkedIn. C'est pas que j'en avais honte ou autre, c'est juste que je voulais pas trop m'étaler sur ce sujet, que j'étais entrepreneur ou autre. J'avais pas trop envie de me la raconter comme certaines personnes le font, etc. Et je voulais vraiment avancer et pas être trop publique, etc. Donc Alice, elle m'a dit: bon, maintenant tu vas monter sur scène, tu vas commencer à parler à Gold Up, etc. Et en fait, j'ai pris un peu plaisir aussi à raconter mon histoire, à coacher quelques personnes qui commençaient à entreprendre, etc. Et en fait, ça a été aussi, bon, alors Alice, ça a été aussi la la voie royale pour aussi rencontrer plein de gens. Et donc, grâce à Alice, elle m'a intégrée dans The Family, elle m'a fait rencontrer plein de gens, j'ai rencontré plein de gens. Donc, j'ai aussi eu une rencontre marquante qui est de... On est hyper alignés, c'est un de mes associés qui s'appelle Jérôme Dalicieux. On est hyper alignés sur tous les sujets. C'est bah, du coup, grâce à Alice, grâce à The Family que je l'ai rencontrée, parce qu'il gravitait autour de The Family avec une boîte de formation en e-commerce qui s'appelle eConquest. Et je l'ai adoré tout de suite. J'adore comment il réfléchit. Il est comme moi, c'est-à-dire qu'il parle pas beaucoup, mais il fait beaucoup les choses. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est pas dans le bullshit, il s'étale pas sur sa vie, sur tout ce qu'il sait faire. J'adore les gens aussi qui disent je ne sais pas, tu vois. Donc c'est lui, il est comme ça, il est comme moi, et on sait qu'on va faire plein de choses ensemble, et on le sait. Et je pense, troisième personne, mais c'est vraiment aussi sur le côté pro, c'est j'ai adoré rencontrer mon futur associé qui va venir et qui va être CEO de MyLuby. Je trouve que tes associés, ils doivent vachement t'admirer, et enfin, ils doivent. Enfin, tu dois être admiratif vis-à-vis d'eux et pas trop, enfin, être vraiment dans le « ils sont meilleurs que moi ». Et vraiment, Pierre, enfin, sur tous les sujets, à chaque fois qu'il me parle, enfin, je l'appelle dès qu'on doit gérer un problème que je devais gérer toute seule. Enfin, on est alignés et il va m'aider à réfléchir et à prendre du recul. Et il fait les choses très, très bien, très, très vite, de façon très pragmatique. Et j'adore comment il est, j'adore sa personne et j'aime beaucoup comment il réfléchit. Et je pense que c'est la personne parfaite pour porter MyLuby très, très haut, très, très loin, très, très vite. Donc, je suis trop, trop contente de l'avoir rencontré. Et ça va aussi énormément te former. En fait, je pense que les personnes qui doivent être autour de toi, elles ont vraiment un rôle dans ta formation. Donc voilà, et après peut-être sur la vie perso, parce que là j'ai parlé de vie vraiment très pro, je pense que c'est mon copain, hein, mais bon, ça c'est normal, j'ai rencontré en école et d'un point de vue personnel il m'apporte énormément, développement personnel, devenir une meilleure personne, prendre du recul surtout, enfin voilà.
Trop cool. Et dernière question sur cette partie, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans la sextech?
Bon, alors, aux personnes qui souhaitent se lancer, déjà, être dans l'action le plus vite possible, plutôt que dans la réflexion toujours. Je pense qu'on peut commencer à être dans l'action et tout en gardant la réflexion. C'est-à-dire que, comme ce que j'ai fait, j'ai contacté plein de laboratoires, je me suis entourée, j'ai eu une formule, enfin, à tester le plus vite possible, et tout en continuant à faire des entretiens, à parler à des gens, etc. Mais dans la sextech, je pense que mon vrai conseil, c'est de se démarquer aujourd'hui. Moi, je me fais contacter par 2 ou 3 entreprises par jour qui veulent monter une marketplace de produits sexo. Il faut savoir que les marketplaces, ils n'ont pas une, enfin, généralement quand tu te lances, ils n'ont pas une brand aussi forte que des marques, des DNVB un peu comme la nôtre, comme des marques de sextoy, etc. Donc, déjà, pourquoi des personnes vont commander sur ces marketplaces plutôt que les nôtres? Est-ce qu'il y a un service en plus? Est-ce que la livraison, elle se fait en 30 minutes plutôt qu'en 3 jours comme chez nous, etc. Donc, vraiment avoir une énorme valeur en plus, parce que moi, je vois l'émergence de marketplace, mais aussi le crash de marketplace sexo, parce que au bout d'un moment, c'est quand même très, très dur de revendre des sextoys parce que t'as pas d'acquisition à faire. Donc, il faut éduquer le marché, plus vendre, et en plus, t'as moins de marge que, par exemple, nous qui vendons notre lubrifiant au même prix, mais qui faisons beaucoup plus de marge, et beaucoup plus de volume. Donc, je pense que c'est avoir un concept bien défini et pas se lancer en sextech parce que c'est tendance, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans la sextech, notamment réfléchir à la sexualité des personnes handicapées, réfléchir à la sexualité des personnes trans, des personnes non-binaires. Il y a plein de choses à faire, que ce soit des produits, des services, etc. Mais en fait, également, il y a aussi beaucoup de choses qui se lancent. Enfin, moi, je les connais tous, les entrepreneurs dans la sextech maintenant. Enfin, il y a ceux qui ont créé Charles, qui est le Doctolib du sexe. Ils ont lancé la plateforme pour les femmes maintenant. Parce que Charles, c'était pour les hommes. Mia, c'est pour les femmes. Il y a Climax, qui a fait une série de vidéos un peu inspirées de Oh My God, Yes, qui te permettent d'apprendre de te masturber. Mais ils ont vraiment leur vibe différente et c'est génial. Donc c'est un peu Netflix, mais sur la masturbation. Il y a des marketplaces, il y en a qui créent des sextoys, il y en a comme nous qui créent une gamme de produits intimes, mais où on va aller très très vite, on va vouloir aller sur le retail, on va vouloir créer une gamme énorme, lever des fonds et aller très très vite, et faire les choses très très bien aussi. Mais je pense qu'en fait, il faut vraiment avoir son concept propre et pas se lancer pour se lancer, parce que moi, aujourd'hui, j'avais vu une équipe qui était incroyable, genre des personnes qui étaient très, très fortes en acquisition. Ils étaient 5 et ils se lançaient sur la sextech pour faire une marketplace. Mais moi, j'avais envie de leur dire, mais changez de marché. Si vous êtes très, très fort sur l'acquisition, allez pas sur le CBD parce que c'est les mêmes problèmes, mais allez sur un autre marché. Il y a encore plein de choses à faire dans plein de secteurs. Juste, la sextech, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué.
Ok. Et du coup, on va rentrer dans la dernière partie du podcast. 6 petites questions. Et la première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Ouais, bon alors c'est un peu classique, mais moi c'est un peu le livre qui m'a fait commencer à entreprendre, c'est La semaine de 4 heures, et c'est vraiment hyper fidèle un peu à ma façon de réfléchir, et qui est de, c'est d'aller en dehors des modèles préconçus du 9 à 6 tous les soirs et toute la semaine. La semaine de 4 heures, c'est un livre que m'a donné mon frère pour commencer à entreprendre. Et oui, c'est un gros basique, mais je pense que c'est super à lire pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir comprendre que t'es pas non plus censé être dans des rails toute ta vie. Et c'est pas forcément que de l'entrepreneuriat, ça peut très bien être du freelance, être en freelance, mais facturer des sociétés françaises alors que t'es à Bali ou autre. Enfin, ça te permet un peu d'avoir un peu de créativité, de sortir de ces rails où moi on m'avait mis dessus et je me voyais encore jusqu'à mes 60 ans être dans une boîte où j'avais gravi les échelons chaque année. Et je pense que ça convient pas à la majorité des personnes. Je dis pas que ça convient pas à tout le monde, mais je pense que c'est important de lire au moins une fois pour comprendre, en fait, juste pour ouvrir un peu ses chakras et voir qu'il y a d'autres façons de vivre. Parce que ça perturbe, en fait, de voir des personnes qui vivent comme ça. Moi, mon frère, il vit comme ça. Il travaille peu, mais il a déjà tous ses assets en amont. Et moi, j'aimerais bien, à terme, faire ça aussi. Alors, c'est pas du tout mon cas aujourd'hui. Moi, je suis plutôt sur du 100 heures par semaine. Mais le 4 heures par semaine, ça arrivera peut-être un jour si ça fonctionne bien pour ma vie. Ça, c'est point de vue pro. Et si t'en veux un autre du point de vue perso que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup, c'est Le pouvoir du moment présent, qui te permet d'être un peu plus connecté à toi-même et d'effacer un peu toutes les pensées qui te viennent et d'être vraiment hyper connecté au moment présent, parce que le temps passe très vite. Enfin, moi, je me suis réveillée cette année en me disant « Ah, j'ai 27 ans quand même. » Donc, ok, c'est très jeune, mais le temps passe vite et je pense que la meilleure façon d'en profiter, c'est d'être connecté au moment présent et de profiter avec les personnes qui sont autour de soi au moment présent, quoi.
Ouais, ok. Si tu avais un film à conseiller ?
Bon, moi, j'ai adoré, enfin, je sais pas s'il fait vraiment polémique, mais j'ai adoré Call Me By Your Name. Qui est un film qui parle de l'amour entre deux adolescents qui se cherchent et qui arrivent à voir qu'ils sont, enfin, comprennent c'est très très fort au niveau de l'amitié et au niveau de l'amour que ça génère. En fait, le film, il est magnifique, il est très lent, il transporte totalement dans cet environnement de famille un peu parfaite, sous le soleil d'Italie. Enfin, c'est vraiment un gros voyage et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de voyager et je pense que c'est un film qui est long, mais ça nous fait vraiment énormément de bien et on se projette énormément dans cet univers de famille un peu parfaite, très ouverte sur le monde, très intelligente et ça nous fait du bien.
Ok. Ta musique du moment ?
Parcells, tous, parce qu'ils sont hyper... C'est un groupe qui est hyper... Ça donne envie, bon, déjà de danser, mais aussi c'est une très bonne musique pour... Enfin, c'est un très bon groupe aussi pour travailler. Et notamment, là, on est vendredi, je pense que je la mettrai ce soir, je pense, pour fêter un peu le week-end de Pâques, quoi.
Très bien. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, ce serait laquelle ?
C'est dur, ça. C'est dur. Depuis un an, je réfléchis vachement à un business un peu... un business. À une entreprise un peu kiff dans 5-10 ans, quand MyLubi sera un peu sur rail, etc. Et une entreprise un peu kiff pour moi, en ce moment, je suis complètement passionnée de tout ce qui est hôtellerie. Enfin, vraiment, depuis un an, je ne pense qu'à l'hôtellerie. Moi, je fais pas mal de kite. Et tu vois, je fais un petit peu de yoga aussi. En fait, j'aime bien tout ce qui est un peu les écologes, un peu stylés, qui te permet d'être sur l'eau toute la journée en kite. Et le soir, il y a une super bonne ambiance et tout. Donc, ça sera pas du tout un truc pour la rentabilité ou autre, même si je pense que ça marche bien. Mais ça serait le groupe d'hôtels Océan Vagabond. Il y en a un à Darla. C'est un peu cliché, ça fait un peu start-upper, mais je pense que ça te permet aussi de déconnecter. Enfin, c'est un endroit magnifique. Moi, j'y suis allée, je rêve qu'une chose, c'est d'y retourner. Et je pense que ça va aussi sur, je pense, à un moment de ma vie, je sais très bien, j'y réfléchis déjà, de créer un hôtel et un hôtel où on se sent bien, qui est proche de la nature et un business kiff, quoi. Il n'y a pas non plus que le business pour ramasser des thunes.
C'est clair, trop cool. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ?
Ouais, je sais pas, peut-être parler des échecs, parce que là, ça fait un peu celles qui se présentent et qui montent deux boîtes, dont une qui tourne sans effort et l'autre qui commence un petit peu à percer. Mais en fait, derrière, moi, j'ai eu plein d'échecs, plein de remises en question. Et je pense qu'il faut être assez humble là-dessus et il faut être aussi... c'est naturel d'en avoir, et je pense que à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que c'est pas parce que t'as un échec, et d'ailleurs moi j'aime pas trop appeler ça échec, c'est plus un apprentissage, que ça va te définir toute ta vie. C'est vrai qu'en France on voit vraiment l'échec comme une catastrophe. Même les banques, une fois que tu te plantes une fois, elles ont pas envie de te refaire confiance une deuxième fois. Alors que je pense que moi j'ai eu pas mal de petits échecs sur des produits, tu vois, enfin pas mal de petits apprentissages qui sur des produits qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas trouvé leur product market fit, qui ont, mais aussi sur des associations. Hein, moi j'ai eu deux associations qui n'ont pas trop fonctionné, avec qui ça a été très très compliqué de travailler, pas du tout la même façon. De grandir, et aussi pas du tout la même ambition, quoi, et pas du tout les mêmes valeurs. Donc, un petit peu complexe sur ça, mais je pense que ça a été un énorme... J'ai pris 10 ans de maturité, donc tu vois, c'est énorme. Alors, ça a été très compliqué à des moments, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis trop contente de l'avoir fait, parce que ces apprentissages et ces petites erreurs, c'est des choses que je ne referai plus. Donc, ouais, peut-être le rapport à l'échec est intéressant. Enfin, je sais pas, toi, quel est ton rapport, mais...
C'est... Ouais. En plus, je pense que l'échec est très tabou en France, alors qu'il faut prendre conscience que tout le monde a connu des échecs et connaîtra des échecs dans sa vie, c'est juste une évidence. Et que de toute façon, à partir du moment où on fait des choses, on crée des choses, on connaîtra forcément des échecs. Et pour justement mieux rebondir, il faut toujours comprendre pourquoi on a échoué. Et ça, c'est clair que c'est hyper important, quoi.
Exactement. Et également, en fait, tu reconnais un peu aussi les bons entrepreneurs qui trouvent pas trop d'excuses aux échecs, du style « Ah non, mais en fait, on était sur le marché beaucoup plus tôt, beaucoup trop tôt, ou il n'y a pas de product market fit, ou bah, en fait, la presse n'a pas voulu parler de moi, ou alors que bah, non, c'est peut-être juste toi qui a mal travaillé et qui fait... » Enfin, voilà,
c'est
ça. Juste l'apprentissage, je pense que c'est un vrai travail d'introspection, quoi.
Totalement. Et du coup, ma dernière question que je pose à chaque fois, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Ok, donc tu as déjà interviewé Mélanie Dinan. Moi, je pense à Jessie Toulcanon. Elle est en train de révolutionner la livraison de colis. En fait, le problème en France, et moi, je le vois aussi en termes... En termes de consommatrices de e-commerce, mais également en termes de personnes dans le e-commerce, il y a énormément de problèmes de colis. Enfin, nous, tous les jours, on nous dit « La Poste a marqué mon colis en étant livré, mais il n'est pas livré ». Donc, en fait, ça fait en sorte que tes voisins soient des relais colis. Et aujourd'hui, elle commence à être partout sur BFM, à ouvrir plein de zones de livraison, parce que pour l'instant, c'est ouvert à Paris et la banlieue, et certaines banlieues. Mais je pense qu'elle a une vision du e-commerce qui est hyper intéressante, et également, elle est en train de révolutionner la livraison de colis, vraiment. Et je pense que c'est très compliqué à faire, parce que c'est une marketplace, il faut recruter les voisins, et il faut aussi recruter les entreprises qui te font confiance pour que les colis soient livrés chez des voisins. Et en plus, ça a un côté un peu social, et ça se perd un peu avec le confinement aussi. Enfin, on voit qu'il y a une distanciation sociale de plus en plus, même en termes de connexion avec les autres. En fait, elle remet ça un peu dans son business, et moi j'aime bien les business qui sont un petit peu humains, tu vois, qui sont pas uniquement là pour lever des millions et vendre à la terre entière, même si c'est important aussi. Et je pense que Jessie, elle a le côté un peu humain aussi, qui est de faire rencontrer entre voisins et de faire en sorte que tu connaisses un peu tes voisins autour de toi. Donc je pense Jessie, je pense Jérôme Dalution, mon associé, ce serait intéressant de le contacter. Il a créé une formation sur le e-commerce, et je pense que ça intéresserait vachement de monde, parce qu'on sait jamais par où commencer. En faisant du e-commerce, on peut avoir des très bonnes idées, mais on sait pas faire d'acquisition, ou on sait pas comment créer une brand un peu forte, une image un peu forte. Et il a interviewé tous les meilleurs entrepreneurs, il a compacté dans une formation, et en plus ils sont trois à faire ça, ils sont hyper humains, ils sont vachement dans l'éducation, dans la bienveillance, et je pense que ça peut énormément aider. Et je pense que il est vraiment expert e-commerce, donc il pourra pas mal te parler d'e-commerce. Et en plus, c'est pas sa première fois qu'il entreprend. Bon, moi, typiquement, il est associé avec moi. Et son premier business, c'était de créer des applications Shopify. Donc, il a plein de choses à raconter.
Cool. Top, super. Et ben, écoute, Anne, c'était super cool comme échange. Je te remercie pour cette petite heure de podcast, de discussion. Et puis, pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller checker MyLubi et puis potentiellement à tester le lubrifiant.
Merci beaucoup François de m'avoir reçu aujourd'hui, j'ai kiffé cet échange.
Moi aussi, ciao.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.